À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, 92.2. Chers amis auditrices, auditeurs de Radio Cité, mais bonjour, je suis tout près du lac, je suis avec quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, et puis ça me fait plaisir de le retrouver, parce que la dernière fois on s'est vu de façon assez courte, je crois que t'aimes bien les bons produits du terroir, hein. On s'est rencontrés dans cette dynamique-là, il y avait de bons amis communs, enfin voilà, c'était un moment de bonheur, de partage, c'était très convivial, et puis là je me suis dit, allez, Jérôme, cette fois, on va se consacrer un peu de temps, si tu en as également. Donc, je suis avec Jérôme Favoulet. Jérôme, je connais donc depuis un bon moment. Quand on parle PME à Genève, eh bien, très souvent, on évoque ce nom. Jérôme, salut.
Salut.
Aujourd'hui, on est chez toi. Là, c'est très calme. T'as un magnifique bureau tout près du lac. Mais je pense qu'ici, ça travaille bien.
Ça travaille bien. Après, nous, notre travail, c'est aussi justement d'être dans les PME. Parce que on doit capter la réalité, avoir des sensations, capter les odeurs, capter les bruits, capter les signaux faibles pour vraiment accompagner les entreprises, surtout dans leur développement, mais aussi des fois dans des repositionnements.
Là, tu parles de toute catégorie d'entreprise. Là, on est sur un spectre assez large.
Ouais, on est sur un spectre très large. Le principe, c'est que les directions et les actionnariats d'entreprise souhaitent que ça bouge.
Et toi, tu aides à bouger dans le bon sens?
Alors, dans le sens qu'ils le souhaitent, c'est eux qui décident.
D'accord, oui, mais enfin, les signaux faibles, peut-être que tu en as, que eux ne perçoivent pas, parce qu'ils ont des fois la tête dans le guidon. Or, ton boulot, c'est peut-être aussi de regarder un petit peu plus loin que leur vision, dans le cadre de ce qu'ils font normalement dans leur journée.
Ouais, c'est-à-dire que c'est eux qui décident où ils veulent aller. Par contre, moi, j'ai un enjeu personnel, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de participer à des projets qui permettent de créer de l'emploi. Pour moi, une entreprise, bon, c'est une structure juridique, c'est une personnalité morale, ok, super. Mais avant tout, c'est des emplois et des familles. Et c'est surtout ce que je vois quand j'arrive, c'est quels sont les emplois qu'on peut préserver, quels sont les emplois qu'on peut créer, quel est le développement et le dynamisme qu'on peut préserver au niveau de du canton, souvent, parce que j'interviens essentiellement sur le canton de Genève.
Alors, signaux faibles, aujourd'hui on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de repositionnement, on parle aussi de problématiques liées à l'environnement, au repositionnement au niveau de l'énergie, etc. Donc ça fait partie de ces signaux-là où tu peux rendre attentif des entreprises qui se créent ou qui aimeraient faire mieux?
Oui, alors l'objectif c'est quand même de sentir qu'est-ce qui va faire bouger la direction de l'entreprise. Il y a des personnes qui ne sont pas encore engagées, par exemple, dans le développement durable, mais qui souhaiteraient y aller. Par contre, ceux qui pensent que c'est une ânerie et puis qu'il faut pas y aller, bah, on les laisse faire leur propre expérience. Je pense quand même que dans quelques années, ils s'apercevront que ça sera de plus en plus difficile de pas l'intégrer massivement. Et justement, il y a plein d'innovations qui se font dans ce domaine-là qui sont extrêmement intéressantes.
Bien, eh bien là, ça nous met la puce à l'oreille. Dis-moi, on est chez qui, là, on est où?
Alors, on est dans un local partagé, on est plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs à se partager des locaux. Et mon entreprise s'appelle GECO, c'est une de mes activités, puisque je travaille à la fois en tant qu'indépendant et en tant que salarié pour une structure qui s'appelle l'Office de promotion de l'industrie.
Tu peux nous en dire un peu plus sur cet office?
Alors, c'est l'Office de promotion de l'industrie, donc c'est au service des industriels du canton de Genève. C'est une structure qui a été créée il y a à peu près 50 ans, plus ou moins, et qui est active pour soutenir le tissu industriel genevois. Au jour d'aujourd'hui, moi, mon activité est essentiellement centrée sur un programme qui s'appelle Platine, qui est la contraction de plateforme et innovation. Et l'objectif, c'est d'accompagner des PME dans de l'innovation, et aujourd'hui beaucoup dans les aspects qui se touchent soit à la digitalisation, soit au développement durable.
Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret ou je sais pas, une mise en situation d'un projet d'entreprise qui passe par ton aide?
Typiquement, y a des dossiers très divers, donc je vais donner trois exemples. Le premier exemple, c'est une marque horlogère qui s'appelle ID Watch, que j'ai eu le plaisir d'accompagner, qui travaille en fait sur le fait de réduire l'empreinte carbone de l'industrie horlogère et des productions. Alors, comme ils le disent eux-mêmes, c'est quelque chose qui est relativement facile pour eux parce qu'ils sont nés comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec comme valeur principale la durabilité. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de commencer avec des principes de durabilité que de réadapter tout un outil industriel déjà en place depuis un certain nombre d'années. Mais ils travaillent sur plein de choses. Les bracelets sont faits en partie avec du chanvre ou du moût de raisin, donc il n'y a plus de cuir. L'acier est fondu dans un four solaire. C'est de l'acier qui est quasiment 98% recyclé, plus élevé que la moyenne. Les mouvements sont des mouvements qui sont également restaurés. Donc il y a vraiment une démarche de travailler sur une production qui soit moins gourmande en CO2. Un autre projet, c'est une société aujourd'hui qui est active dans toutes les activités de santé et qui se dit que finalement, ils ont beaucoup de gens qui viennent à titre personnel parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, qu'un des meilleurs moyens de les contacter, ça serait de passer par les employeurs et de travailler sur finalement comment on arriverait à prévenir les difficultés de santé des collaborateurs pour tout simplement avoir des gens qui sont en meilleure santé, qui sont en meilleure forme, qui vont bien et qui peuvent travailler parce qu'ils en ont les capacités. Et du coup, travailler sur ces aspects-là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur cette mise en place d'un accompagnement santé en entreprise avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des nutritionnistes, et de se dire que finalement, on va travailler sur le fait que les gens aillent de mieux en mieux et que tout le monde se sentira mieux et que on va vraiment changer aussi la capacité de production des entreprises. Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, c'est des entreprises qui sont actives depuis très longtemps et puis qui aujourd'hui doivent passer la barrière du digital. Leur activité est en train de changer et puis souvent, ils ont pris un petit peu de retard par rapport à leurs concurrents qui sont créés beaucoup plus tard. Et puis eux, ils doivent aujourd'hui rattraper le retard. Donc, c'est des engagements. C'est d'accompagner les collaborateurs dans le changement des habitudes de travail. C'est compliqué, c'est difficile pour eux. Donc, il faut vraiment les soutenir. Il y a vraiment cette volonté d'accompagnement et de travailler sur le fait que tout le monde, finalement, vive positivement le changement, alors qu'on a naturellement une réticence au changement par nature.
Dans le cadre du deuxième exemple, il y a une idée qui m'interpelle, parce qu'on en parlait juste avant l'interview, parce qu'on a quand même 2 minutes pour boire un verre d'eau avant. Jérôme, on parlait de la relation humaine dans l'entreprise et de ce qui s'est passé, je dirais, au moment où on s'est dit « tiens, le télétravail, c'est pratique ».
Alors oui, le télétravail, ça offre tout un tas d'avantages. On gagne sur les temps de transport, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on perd aussi les contacts. On dit qu'il y a une partie qui passe du message qui passe par les mots, une partie par les gestes et une partie par le ton. Les gestes, on les a pas tant que ça en visio. Donc ça veut dire qu'on va perdre. On va perdre aussi les pauses café. Moi, j'avais entendu il y a quelques années que les 3/4 des innovations du CERN étaient nées autour de la machine à café. Si on n'a plus l'occasion d'aller boire le café ensemble, ça veut dire qu'on perd 3/4 des innovations. Et donc, il y a des dimensions où la relation humaine est quand même importante, mais la relation humaine est importante à condition qu'on crée des conditions favorables et que ce soit agréable d'aller retrouver les collègues. Si à chaque fois qu'on va retrouver les collègues, on a la boule au ventre, c'est sûr qu'on a plutôt envie de rester chez nous. Donc, il y a cette dimension-là aussi. Là, on fait appel à des experts, notamment des gens qui écrivent des ouvrages sur l'ennui au travail. Yann Vaucher, par exemple, avec qui on travaille occasionnellement et qui vraiment travaille sur le fait de prendre du plaisir dans le monde du fonctionnement professionnel et de se dire, OK, on va travailler, mais on va adapter différemment, on va vérifier qu'on a mis la bonne personne au bon endroit et qu'elle sera heureuse de venir bosser tous les matins.
Est-ce que tu es d'accord que je mette un lien avec cet ouvrage sur notre podcast ?
Bien sûr.
Et si on a un autre à mettre, tu me le diras, oui. Je le mettrai également. Mais ça me semble indispensable aujourd'hui.
Oui, c'est indispensable. En fait, on s'aperçoit que pour atteindre certains niveaux de performance, on doit se mettre dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que certains ont fait l'expérience, c'est plus facile d'avoir le vent dans le dos à vélo que le vent de face. Donc sur ces parties-là, c'est aussi de se dire OK, comment je transpose ça dans mon entreprise et comment je m'arrange pour que mes collaborateurs aient le vent dans le dos. Et souvent, les directions ont l'impression qu'elles vont devoir faire des efforts supplémentaires pour ça, alors que des fois, il n'y a pas d'efforts supplémentaires de la direction. Il y a juste un petit ajustement à faire qui finalement ne va pas changer leur quotidien.
Maintenant, on imagine, j'ai une entreprise, j'aimerais que mon fils la reprenne. Quelque part, il aimerait bien, mais il a un peu peur, il y a tous ces aspects juridiques, et puis il n'a pas forcément les mêmes, évidemment, visions d'avenir que moi. Ça peut être aidant de te contacter dans ces cas-là?
Alors effectivement, il y a des fois où on accompagne des repreneurs, parce qu'il y a tout un tas de peurs. il y a le fait d'accompagner aussi des changements, parce que le repreneur doit aussi mettre sa patte, et puis il n'aura pas forcément la même définition de la réussite que son prédécesseur. Donc il va devoir adapter un petit peu aussi ses attentes, il va devoir les partager. Donc il y a tout un tas de choses à faire, il y a un vrai accompagnement à opérer. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus... les peurs, c'est toujours, on a peur de choses qui sont pas encore réalisées la plupart du temps, et on n'a pas de garantie qu'elles se réalisent. Donc finalement, on a peur de quelque chose qui va pas arriver.
De faire les mêmes conneries qu'avant.
Ouais. Bon, il y a des citations. Hein, on va pas arrêter de faire des conneries, on va juste en faire des nouvelles.
Voilà. C'est bienvenue au club.
Donc ça, il y a effectivement ces principes-là. Je crois qu'il faut pas surestimer. Il y a plein d'entreprises où on a fait plein d'erreurs, et puis, enfin, où des erreurs ont été faites et qui continuent à bien fonctionner. Et puis c'est pas grave. La question, c'est comment on arrive à les réparer, comment on arrive à se positionner. L'accompagnement de la reprise, ouais, il y a des vrais enjeux aussi, parce que le monde change et que on doit s'adapter. Et on doit faire en sorte que, malgré tout, de préserver tous les savoir-faire.
Jérôme Favoulet, on a un petit rituel dans notre émission, puisqu'elle s'appelle Merci la vie. Quand tu entends quelqu'un dire Merci la vie, comment ça résonne en toi ?
Ça résonne tout de suite. C'est de la joie, quoi. Moi, j'ai ce plaisir. Le métier d'accompagnement, c'est aussi de guetter à quel moment on va réussir à faire sourire ou à donner du bonheur aux gens avec qui on travaille. Donc, je suis hyper sensible à ça. C'est presque, pour moi, c'est presque des fois plus important que les autres soient heureux que moi-même. Parce que, voilà, ça fait partie de mes objectifs de vie. C'est de les aider à réaliser leurs rêves. Parce que souvent, leurs rêves, c'est pas des rêves que pour eux, c'est aussi des rêves pour notre société.
Alors, sur ce chemin de vie, si je zoome un petit peu plus proche, là, dans ces dernières 48 heures, est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui dit, ah, parce que je suis sensible, que je vis le moment, je me suis rendu compte que là, il y avait vraiment un truc de bonheur que j'ai bien fait de regarder en face?
Oui, alors typiquement une rencontre ce matin avec une nouvelle entreprise, et puis de s'apercevoir que effectivement il y a des solutions qui se créent, il y a des gens qui sont en train de changer complètement leur orientation professionnelle pour aller au service du développement durable et servir un idéal qu'ils ont de notre société. Ça, c'est, oui, c'est merci la vie, parce que moi, mes premiers accompagnements liés au développement durable, c'était il y a 25 ans. Puis il y a 25 ans, il n'y avait pas la mode qu'il y a aujourd'hui, mais cette mode qu'il y a aujourd'hui, on en a besoin pour que les choses bougent.
C'est vraiment une mode?
Oui, ça passe par un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'il y a toujours un phénomène de mode, c'est ce qu'on appelle le pic des attentes dans les modèles d'innovation, où on a l'impression que ça va tout résoudre et puis que notre société sera parfaite une fois qu'on aura fait le développement durable. Non, elle sera pas parfaite. Il y a encore plein de choses qu'on pourra faire évoluer. Mais néanmoins, elle sera meilleure. Et on va devoir trouver effectivement les aspirations pour aller plus loin.
Cher Jérôme, maintenant, si je te pose pas de questions, est-ce que tu veux profiter de ce micro pour dire quelque chose que tu as envie de dire à nos auditrices et auditeurs ?
J'ai envie de leur dire deux choses. Quelque chose que je me suis vraiment attaché à créer avec mes enfants, c'est de leur poser la question, chaque jour, d'identifier un moment d'émerveillement. Et ça, c'est une discipline qu'on s'est imposée ensemble, et chaque soir, on fait le point. Quel a été notre moment d'émerveillement dans la journée? Ça peut être le lever du soleil, ça peut être la neige, la première neige sur le Jura, ça peut être plein de choses. Ça peut être peut-être un reflet sur le lac, ça peut être plein de choses, mais c'est vraiment de se dire, je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à profiter des bons moments et on a tendance à garder que les mauvais à la fin de la journée. Et c'est important qu'on se rappelle qu'on a quand même des super moments dans la vie, qu'on en vit tous les jours et que ça fait que notre vie, elle est quand même vachement agréable.
Eh bien, c'était vachement agréable de passer un moment avec toi, Jérôme. On se quitte donc sur un message qui, j'espère, illumine un petit peu autour de nous, parce que on a besoin effectivement de regarder l'instant, de regarder devant, et de voir que le verre, il est souvent plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Alors, merci la vie, merci à toi, et puis à tout bientôt, Jérôme.
Merci à tous.